SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Ready to launch your business? Get started with the commerce platform made for entrepreneurs. Shopify is specially designed to help you start, run, and grow your business with easy customizable themes that let you build your brand. Marketing tools that get your products out there, and that's just the beginning. From startups to scale-ups, online, in person, and on the go. Shopify is made for entrepreneurs like you. Shopify, your all-in-one commerce platform.
Sign up for your $1 a month trial at shopify.com.au/listen.
Vous êtes avec SBS French.
Europa Voice, comme à l'accoutumée, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
On a un sujet qui va revenir en deuxième partie, c'est le Brexit, parce qu'on va célébrer un anniversaire assez important, les 10 ans du Brexit. Ce sera en deuxième partie de cet épisode donc d'Europa Voice, mais tout d'abord on va parler d'immigration, sujet énorme, sujet persistant en Europe, un sujet qui revient sur le devant de la scène parce que on le sait, hein, il y a quand même pas mal de tensions sur le continent européen au sein de la communauté européenne, et donc la communauté se doit entre guillemets de réagir par rapport à tout ça.
Je dirais, Christophe, qu'il y a 3 éléments qui font que ce narratif migratoire revient sur le devant de la scène en Europe. D'abord, le premier élément, c'est qu'on a un continent européen, on a des exécutifs européens qui sont de plus en plus à droite, voire à l'extrême droite par rapport à la précédente mandature. Et en fait, le cas hongrois est un peu l'exception qui confirme la règle, parce qu'encore une fois, globalement, le continent européen a ouvert la voie quand même à plus de populistes que sous la première mandature de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, Christophe, le deuxième élément, c'est qu'en fait, c'est un petit peu la suite logique d'un mouvement qui a été entamé depuis 2008, avec notamment une directive qui a complété le pacte européen sur la migration et sur l'asile, qui entrera en vigueur, qui s'appliquera d'ici quelques jours. Donc c'est un peu la suite logique de ce pacte européen qui permet en fait de mettre en œuvre ce qui est dans les tuyaux de l'Union européenne depuis maintenant plus de 15 ans. Et puis le dernier élément, Christophe aussi, c'est le contexte global. C'est que de toute façon, l'Union européenne, et d'ailleurs on le verra même avec le cas du Brexit après, est de plus en plus le terrain de jeu de vagues de migration massive. Donc la question, elle se pose avec bien plus d'acuité même aujourd'hui qu'elle ne se posait au début du 21e siècle, ou même, encore une fois, durant la première mandature de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.
Ce qui est intéressant de voir, c'est si on prend pays par pays, mais on va s'attarder un petit peu sur la France, on sent que ça procrastine un petit peu quand même du côté français. Alors, est-ce que c'est dû au fait que c'est un gouvernement qui est quand même sur la tangente, on connaît l'historique de la création de ce gouvernement et de la nomination plusieurs fois d'ailleurs du même Premier ministre. Est-ce que c'est un résultat de ça, ou est-ce que c'est un vrai questionnement par rapport à comment un pays doit gérer son immigration?
Alors, le cas français, en ce qui concerne les ministres d'Emmanuel Macron, et notamment le ministre chargé de l'Europe, il y a un soutien à l'essentiel de ce texte-là. Le gouvernement Macron n'hésite pas à préciser que c'est une avancée majeure, encore une fois, pour renforcer les instruments européens de lutte contre l'immigration illégale. Parce qu'il faut bien préciser cet élément-là, Christophe, c'est qu'en fait, c'est un outil surtout pour gérer l'immigration illégale, premièrement, et puis aussi, deuxièmement, gérer les expulsions pour qu'elles soient plus rapides et plus effectives. Parce qu'aujourd'hui, Christophe, on a seulement 20% des décisions de retour qui aboutissent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question, elle n'est pas la gestion de l'immigration légale. La question, elle est, une fois qu'on a mis le doigt sur le fait que on a une immigration illégale, une fois qu'on a activé le processus pour un retour de migrants illégaux, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à 100% de résultats? On a 1/5 à peine de ces décisions de retour qui aboutissent. Donc en fait, ce processus-là, il s'inscrit aussi comme une réponse au constat qui est fait que une fois que la décision est prise, il n'y a pas d'effectivité de la sanction ou il n'y a pas d'effectivité de la décision prise à l'heure actuelle en Europe. Donc, le gouvernement français, d'une certaine façon, ne peut que être un soutien de cette politique-là et de ces réformes-là. C'est pas le cas dans toute l'Europe. Hein. Vous avez des gouvernements qui sont beaucoup plus opposés à ces mesures. C'est le cas, par exemple, de l'Espagne. Et puis, vous avez aussi, de l'autre côté, c'est important de le préciser, Christophe, des gouvernements qui non seulement soutiennent ça, mais sont prêts un petit peu, j'allais dire, à mettre la main à la pâte, notamment sur une mesure qui est extrêmement critiquée, qui est celle des centres de migrants en dehors des pays de l'Union européenne.
Un modèle qu'on connaît bien d'ailleurs en Australie, parce que c'est un modèle qui, je pense par mémoire, qui a été créé d'ailleurs par le gouvernement australien à un moment ou un autre, avec Nauru par exemple. Et c'est vrai qu'on en parlera aussi dans quelques instants en deuxième partie de ce podcast, l'idée du Rwanda pour la Grande-Bretagne. Donc ça, c'est un modèle qui existe déjà ailleurs. Donc en réalité, c'est quelque chose qui, enfin, je veux dire, en Europe, on n'a rien inventé. Mais ça, c'est un cheveu sur la soupe quand même pour beaucoup, beaucoup de démocraties en Europe.
Bah, en Europe, c'est un peu toujours la même chose, Christophe. On n'a rien inventé, mais même pour copier des choses, on prend du temps pour le faire. Parce que si on parle de ces centres de migrants, de toute façon, ça va prendre des années pour des raisons d'abord logistiques, à construire ces centres pour migrants, mais aussi pour développer ces projets, mais surtout pour trouver des accords, pour avoir ces discussions avec les pays concernés. Parce qu'encore une fois, c'est bien beau de vouloir expulser les migrants illégaux, mais la raison pour laquelle on a simplement 20% d'effectivité de ces décisions-là, c'est aussi parce que les accords ne sont pas forcément trouvés avec les pays censés accueillir ces migrants. Et donc, il y a ça c'est le premier problème. Et puis deuxième frein, ou en tout cas deuxième chose qui pourrait se heurter à ces projets-là, c'est que de toute façon, vous avez au sein de l'Union européenne, au-delà des pays, hein, j'ai mentionné l'Espagne, mais vous avez aussi des partis de gauche et des ONG qui sont évidemment, Christophe, vent debout contre ces mesures parce qu'elles les jugent contraires au droit international. Et elles y voient un recul pour les droits fondamentaux des personnes exilées, etc. Donc, de toute façon, voilà, vous avez une espèce de double limitation. La limitation, j'allais dire, logistique, et la limitation en termes de discussion avec les pays censés accueillir ces migrants et censés accueillir ces centres de migrants. Et vous avez la limitation au sein même de l'Union européenne, d'ONG et de partis de gauche, qui sont évidemment opposés à ces mesures-là.
Il y a aussi une limitation, j'en rajouterai une, celle des pays qui ne voudraient pas recevoir des gens qui sont expulsés. Je pense à l'Algérie, par exemple, où il y a eu le cas avec les OQTF, et il y a cette espèce de relation conflictuelle entre la France et l'Algérie qui ont fait que des expulsés algériens pouvaient être expulsés de France. Ils partaient en avion, ils arrivaient sur le sol algérien et ils n'étaient pas acceptés, donc renvoyés en France. Et ça, on sent que c'est une chaîne, entre guillemets, qui est pas forcément qui fonctionne pas forcément sur la longueur.
Non, et puis vous l'avez dit, hein, le cas des personnes ou des États, mais qui refusent, en tout cas en l'occurrence pour les personnes qui refusent de quitter le territoire, il y a toujours l'option pour la France, par exemple, vous avez mentionné le cas algérien, de saisir certains documents, de prolonger la durée de rétention jusqu'à 24 mois, d'allonger les interdictions d'entrée dans l'Union européenne. Le problème, c'est qu'en attendant, ces personnes-là sont toujours au sein du pays qui souhaiterait renvoyer ces migrants en dehors des frontières de l'Union européenne. Donc, il y a aussi cet élément de blocage-là, c'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a pas de zone grise, c'est-à-dire que ce sont des personnes humaines, donc soit elles sont encore au sein de l'Union européenne, soit elles sont déjà retournées dans des centres ou dans des pays hors de l'Union européenne. Mais c'est pour ça qu'en fait, l'élément principal, hein, et vous avez pointé le problème ici, Christophe, l'élément principal, c'est les accords, les partenariats entre les pays de l'Union européenne et les pays hors de l'Union européenne quant à ce qu'on appelle en Europe ces hubs de retour.
Est-ce que dans tout ça, et peut-être je fais un grand écart là-dessus, mais est-ce qu'il y a une certaine responsabilité du gouvernement américain, de Trump également, qui a quand même agité énormément les opinions publiques avec l'immigration aux États-Unis, mais de facto, ça a un retour dans les opinions à travers le monde et notamment en Europe.
Alors, je vous répondrai en deux fois, Christophe, comme souvent. D'une certaine mesure, oui, parce que le populisme américain, il est maintenant aussi au sein de l'Union européenne. Hein, on l'a débattu de nombreuses fois au sein d'Europa Voice ici, qu'il y a une vague populiste qui s'est emparée de démocratie européenne qu'on pensait inatteignable, ou qu'on pensait être plutôt dans le spectre, j'allais dire, classique gauche-droite. Donc, il y a effectivement un vent de populisme aussi qui souffle au sein de l'Union européenne et qui explique aussi un alignement sur ces positions-là ou sur les positions de Trump. Et encore une fois, hein, le cas hongrois est l'exception, hein, qui confirme la règle. Donc, oui, d'une certaine façon. Mais j'allais dire que le cas européen, il est aussi très différent du cas américain, puisque le projet européen, et puis on va faire un petit peu d'histoire de l'Union européenne, il est construit autour de de l'espace Schengen, mais il est construit autour de cette idée de libre circulation des zones et des personnes au sein d'un territoire limité. Donc la question, elle se pose dans l'Union européenne, parce que si on a un territoire limité, c'est pour pouvoir circuler librement, mais c'est aussi pour pouvoir que les personnes, seules les personnes qui ont la capacité de circuler librement, puissent le faire au sein de cet espace européen. Et malheureusement, l'Union européenne a eu ces dernières années, ces dernières décennies, un nombre important de personnes qui n'étaient pas censées, encore une fois, selon la lettre de l'Union européenne, être en libre circulation dans cet espace européen. Donc c'est aussi une problématique, j'allais dire, globale, avec le populisme qui aussi a atteint l'Union européenne, mais c'est une problématique propre à l'Union européenne, parce que c'est un espace politique de libre circulation assez unique dans le monde entier.
Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur cette question migratoire et relation avec l'Union européenne. On fait une courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
This is the sound of something deadly. Bowel cancer is Australia's deadliest cancer for people aged 25 to 54. Know the red flag signs and symptoms. Visit bowelcanceraustralia.org.
Seconde partie d'Europa Voice, Nathanaël Bloch toujours avec nous. Nathanaël, on va parler d'une autre bonne vieille Madeleine de Proust, hein, le Brexit, qui était à l'essence même du début de ce podcast Europa Voice. Hein, c'était l'idée autour de expliquer les tenants et aboutissants du Brexit à l'époque. 182 épisodes partant de là, 10 ans après, on parle donc de cet anniversaire du Brexit, avec pas mal de regrets quand même. En Grande-Bretagne, même si avec un flegme tout britannique qu'il est, on regrette, mais on avance dans l'idée et dans le vote qu'on a eu. Il n'y a pas vraiment de discussion qui valent la peine autour de la réintégration du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. En tout cas, c'est pas sur la place publique, en tout cas.
Non, la question du retour du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Elle est peut-être débattue hein, dans certaines ruelles de Leeds ou de Liverpool, mais c'est pas une question qui a une acuité dominante dans le débat au Royaume-Uni, pour la simple et bonne raison. D'abord, vous avez mentionné le flegme britannique, mais aussi parce que le 23 juin 2016, donc il y a quasiment 10 ans de cela, c'est une majorité claire de Britanniques, Christophe, qui ont choisi de quitter l'Union européenne. Après une campagne référendaire, j'allais dire, sans contestation, dans le sens où la réponse britannique a été très claire, et le take back control était de Nigel Farage était aussi et c'est aussi très clair. Donc il n'y a pas tellement de contestation de cette décision là. Par contre, encore une fois, il y a un flegme maintenant d'assumer ce qui se passe pour les Britanniques et les conséquences de ce Brexit-là, qui, là, pour le coup, il y a un décalage entre ce qui a été promis, d'abord, par notamment les leaders leaders pro-Brexit, et ce qui s'est passé, en fait, ces 10 dernières années, et la réalité sur le terrain, et le décalage, Christophe, entre les promesses de campagne et la situation actuelle au Royaume-Uni.
Une des clés, c'était les questions, encore une fois, on va revenir sur l'immigration. Le problème de la migration n'a pas été résolu, elle a peut-être été simplement modifiée, mais en tout cas, le problème de l'immigration n'est absolument pas résolu en Grande-Bretagne. Et ça reste un des points, parce qu'il y en a plusieurs, un des points de regret par rapport à la mise en place de ce Brexit.
Non, et puis moi j'aime bien ceux qui ont inventé le mot « regret », donc les regrets par rapport à ce Brexit, il y a effectivement quand même 2-3 points de déception monumentale et de lendemain qui déchantent, pour reprendre une expression connue, par rapport à ce Brexit. D'abord, la grande promesse non tenue, c'était celle du versement du montant de la contribution au budget européen au budget du National Health Service, du NHS, qui était ce que Nigel Farage avait annoncé.
Il l'avait écrit sur le bus.
Sur les plateaux télé. C'était sur le bus, c'était partout, c'était populiste à foison, Christophe, de dire, on quitte l'Union européenne et l'argent qu'on va pas verser au budget commun de l'Union européenne à la contribution en tant qu'État membre, ça ira au service, ça ira à notre sécurité nationale à nous, si vous voulez. Ça, c'est une promesse qui n'a pas été tenue parce que, c'est pas aussi facile que ça. Hein. C'est pas des vases communicants, ça marche pas comme ça la politique. Donc ça, c'était une énorme déception des Britanniques. Et sur donc c'était un premier point. Et puis un des grosses autres déceptions, c'est aussi comme vous l'avez mentionné sur les questions de l'immigration, de la fermeture des frontières, etc. Parce que l'immigration n'a pas absolument pas stoppé au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a dû aussi accueillir des migrants pour des raisons économiques, hein, aussi parce qu'ils en avaient besoin. Et donc, toute la politique aussi de ressentiment par rapport au multiculturalisme anglais, toutes les critiques, toutes les campagnes du parti de Nigel Farage, encore une fois, un énorme décalage entre ce qui a été promis et ce qui a été fait par le gouvernement. Alors, c'est pas entièrement de la faute de Nigel Farage parce qu'il n'était pas à la tête du Royaume-Uni. Mais encore une fois, voilà, les deux piliers de cette campagne pour quitter l'Union européenne que sont plus d'argent dans notre système de sécurité sociale, un système de santé et moins de migration, ces deux promesses-là, elles n'ont pas été tenues. Et donc, forcément, après, il y a eu de l'amertume. Et puis une fois que l'effet boule de neige est lancé, forcément vous allez de déception en déception, et surtout vous avez une fracturation au niveau de la société entre ceux qui regrettent leur décision et ceux qui n'en ont jamais voulu.
Mais ce qui est très intéressant dans ce sujet-là, c'est que le gouvernement, le Labour, qui était l'opposition à l'époque au moment du Brexit, ne s'est pas saisi de ça pour dire on arrête tout et on revient comme c'était avant, désolé, on s'est trompé. Le gouvernement Labour a continué et continue dans l'application de la loi et de ce qui a été voté par le Brexit, et on sent un ressentiment encore plus à droite. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a vu des milliers, des centaines de milliers de gens dans les rues à Londres, à Leeds, un peu partout en Grande-Bretagne, encore plus à droite, l'extrême droite qui peut-être avant était sous-jacente ou en tout cas silencieuse, aujourd'hui elle est exprimée. Et ça, c'est pour ceux qui connaissent le Royaume-Uni, c'est nouveau. Ça fait très 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 longtemps, si ce n'est jamais, que ça s'est montré comme ça, si flagrant aux yeux des gens dans la rue.
Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison, Christophe. Ce Brexit a vraiment divisé cette population en deux camps opposés qui s'affrontent sur les questions d'immigration, de diversité ethnique, de questions culturelles, de définition de l'identité nationale. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est encore plus vrai, c'est que ça a encore mis un peu plus de défiance dans le personnel politique. Parce que vous avez une droite, faut quand même le rappeler, hein, ce référendum au début, c'est Cameron, Christophe. Mm-hmm. C'est Cameron pour asseoir sa popularité, pour asseoir sa légitimité. Ça a fait l'effet inverse. Donc, les conservateurs, c'est le pire de ce qui puisse arriver en politique. C'est-à-dire que vous lancez une bête que vous n'arrivez plus à arrêter. Pour les populistes, qui auraient pu légitimement tirer profit de ce Brexit-là, le résultat, c'est qu'ils ont mis un pays entier dans l'embarras et qu'ils ne pouvaient pas, à l'époque, en tirer nécessairement profit. Et pour le Labour, comme vous l'avez mentionné, c'est l'absence finalement de réaction et la non-saisie de cette opportunité de se définir comme une source principale et crédible pour gouverner le pays. Et ce qu'on observe aujourd'hui, moi je serais un peu tenté de dire que effectivement il y a un populisme qui a émergé, il y a une extrême droite, mais ça ne veut pas dire que ça va profiter aux partis politiques traditionnels. Ce qu'on a vu avec Tommy Robinson et avec ces démonstrations-là, je ne suis pas sûr que c'est forcément un parti politique, soit-il d'extrême droite, institutionnalisé, qui en bénéficiera forcément aux prochaines élections. Pour moi, on est aussi en train de voir l'émergence justement de mouvements populistes au sein de la population et pas forcément une institutionnalisation politique, ou en tout cas, il faudrait que Nigel Farage cette fois joue bien la carte s'il y a des promesses de campagne, bah, qu'elles soient respectées s'il est celui à même de gouverner le pays.
Ouais, ça c'est sûr que dans les semaines, dans les mois à venir, c'est on va beaucoup en entendre parler parce que les élections c'est pas tout de suite et ça va faire que monter en puissance avant les élections et ça c'est vraiment certain que ça va rester une de nos Madeleine de Proust. Hein. Je pense qu'on peut en être certain de ce côté-là.
Oui, c'est une affaire, comme vous aimez le dire à chaque fois, Christophe, à suivre.
Affaire à suivre, exactement. Exactement. Merci, Nathanaël.
Merci, Christophe.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Join us this National Reconciliation Week from the 27th of May to the 3rd of June and let's all be all in for reconciliation. Visit reconciliation.org.au to find out more. Authorised by Reconciliation Australia Limited, Sydney.